l'ido dans une fibre de lumière, infibé et les réseaux libres. Où l'archéologie du silicium rencontre la patiente mathématique de la lumière à travers le plastique. La chaleur d'octobre pesait sur le béton de Barcelone avec la persistance d'une mémoire accumulée. Adria Montserrat gravit 4 volets d'escaliers étroits dans l'immeuble de Gracia, son sac en bandoulière rebondissant contre sa hanche à chaque pas. À travers les fenêtres sales de la cage d'escalier, le système nerveux numérique de la ville bourdonnait invisiblement à des câbles à fibre optique serpentant dans les tunnels du métro, des centres de données se refroidissant dans des sous-sols cachés, la symphonie électromagnétique de 8 millions d'âmes connectées. Sur le palier du deuxième étage, Esperanza Vidal l'intercepta avec la détermination concentrée de quelqu'un qui attendait. Ses mains burinées berçaient quelque chose de petit et métallique comme un talisman qui aurait perdu son pouvoir. « Adria, vous comprenez les ordinateurs et l'électronique, n'est-ce pas ?» Cette chose, elle brandit le petit disque métallique, a ouvert mon garage pendant 15 ans. Maintenant, plus rien. Le technicien veut 400 euros pour un nouveau système. Sa voix portait la frustration particulière de quelqu'un qui avait survécu à la bureaucratie de Franco pour se retrouver vaincu par des serrures numériques. Sous la lumière fluorescente de l'escalier, il examina l'appareil. Un bouton en acier inoxydable de la même forme, mais légèrement plus grand, qu'une pile de montre. Une puce microscopique visible à travers sa fenêtre transparente, le logo gravé au laser indiquait « Dallas Semiconductor, l'archéologie de la Silicon Valley enchâssée dans la réalité suburbaine espagnole ». Un e-button, murmura-t-il. DS 1990A, très probablement. Je n'en avais pas vu depuis des années. Claro, c'est comme ça que le serrurier l'a appelé. Mais vous pouvez le réparer, non? Vous résolvez toujours ces problèmes. Quelque chose dans son ton suggérait plus que de la confiance en ses capacités techniques, une sorte de foi qui laissait entendre qu'elle comprenait l'intersection de l'ingéniosité humaine et de la machinerie obstinée mieux qu'elle ne le laissait paraître. 20 minutes plus tard, dans son atelier à l'étage, la clé de garage d'Esperanza était devenue le catalyseur de quelque chose de totalement inattendu. L'archéologie des protocoles oubliés. L'oscilloscope dessinait des motifs familiers sur son écran phosphorescent. Impulsion de réinitialisation, détection de présence, lecture de la ROM. L'e-button répondait parfaitement électroniquement intact après 15 ans de climat méditerranéen et de contraintes mécaniques. Le problème résidait dans la mémoire défaillante du contrôleur de garage, pas dans l'appareil lui-même. Mais alors qu'Adria regardait la séquence hexadécimale défiler sur son terminal 01 à 2B3 C4 D5 6 F7 01, un fragment à moitié oublié de l'histoire numérique s'agita dans sa conscience. Quelque chose à propos des réseaux InWire et des débuts d'Internet. Quelque chose d'archivé dans les profondeurs du folklore hacker. Son navigateur s'ouvrit sur l'interface familière de Hackaday, les termes de recherche apparaissant comme tapés par un instinct archéologique, InWire Network Routé. Le premier résultat était de l'archéologie numérique pure. Routeur sans fil InWire. 10 mars 2006. InWire est un bus de communication à faible vitesse. OWFS est le système de fichiers InWire pour Linux. Combinez les deux avec un WRT54G et vous obtenez une plateforme de collecte de données économique, compatible avec les réseaux filaires et sans fil. OWFS. Le système de fichiers InWire. Adria avait oublié son existence, un module du noyau Linux qui faisait apparaître chaque appareil InWire comme un simple fichier dans le système de fichiers. MNT InWire 10.A2B3C4D5-6F7 température pour lire un capteur. MNT InWire Family pour lister les appareils par type. L'humble routeur WRT54G, sous OpenWRT, se transformait soudainement en un hub sans fil pour tout un réseau de capteurs. 19 ans plus tôt, quelqu'un avait déjà résolu une partie du puzzle de la démocratisation. Chaque appareil InWire accessible via une simple interface web. Des capteurs de température dans les greniers apparaissant comme des liens cliquables. Des contacteurs de portes signalant leur état via des requêtes HTTP. La poésie de faire parler le silicium dans le langage du web primitif. Mais ils étaient encore liés par les limitations fondamentales du cuivre, architecture de bus partagé, portée limitée, interférences électriques. Le résultat suivant lui coupa le souffle. Traducteur de protocole IPv6 vers InWire. 2 décembre 2009. FLIR a assemblé un système basé sur AVR capable d'attribuer des adresses IPv6 aux composants InWire. Un microcontrôleur AVR Atmega 644 est utilisé en conjonction avec une puce de contrôleur Ethernet ENC28J60. Frédéric Lindbergh avait vu la poésie mathématique cachée à la vue de tous. L'identifiant unique de 64 bits d'un appareil à wire correspondait parfaitement à la partie haute de 64 bits d'une adresse IPv6. Un appareil, une identité Internet unique au monde. Non seulement accessible en réseau via un router hub, mais adressable individuellement sur l'ensemble d'Internet. Chaque capteur de température portant son propre nom immuable dans le vaste espace de noms des IPv6. Le hub découvrirait les appareils via l'interrogation standard à wire, puis attribuerait des adresses IPv6 basées sur leur code ROM éternel. Aucune configuration requise. Aucune autorité centrale au-delà de la passerelle locale. La progression historique était époustouflante. 2006, OWFS transformant les routeurs grand public en hub à wire. 2009, IPv6 donnant à chaque appareil sa propre identité Internet grâce à un mappage intelligent. 2025, l'étape suivante évidente que, curieusement, personne n'avait encore franchi. Le catalyseur, la fibre optique plastique. Adria se pencha en arrière dans sa chaise, ressentant ce vertige particulier qui accompagne la découverte d'une idée dont le temps est enfin venu. Libuton d'Esperanza, ce petit jeton de frustration technologique représentait soudainement plus qu'une simple clé de garage. C'était un fragment d'un avenir distribué qui attendait depuis deux décennies le bon support physique. Trois générations de hackers, chacune bâtissant sur la précédente. Les passionnés d'OpenOurt rendant les capteurs sans fil par radio. Frédéric cartographiant les identités de silicium dans le cyberespace. Et maintenant, peut-être, le moment de libérer le protocole lui-même de la tyrannie électrique du cuivre. Un wire était philosophiquement parfait. Une seule ligne de données plus la masse. Assez robuste pour fonctionner sur des dizaines de mètres de paires torsadées dans des environnements électriquement hostiles. La fonctionnalité phare était ces identités éternelles de 64 bits uniques au monde, gravées en usine, immuables. Dallas Semiconductor avait créé un système d'adressage distribué qui précédait l'Internet moderne de plusieurs décennies. La limitation était la physique. Capacitance, résistance, interférences électromagnétiques. L'ingénierie pouvait optimiser, mais ne pouvait transcender les contraintes fondamentales de la signalisation électrique à travers des conducteurs métalliques. Mais la lumière voyageait différemment. La synthèse se cristallisa avec une précision mathématique, un fibé. Pas un nouveau protocole, mais un wire libéré de ses contraintes physiques. La même synchronisation élégante, le même adressage robuste, la même architecture d'alimentation parasite mais transportée par des photons à travers une fibre optique plastique au lieu d'électrons à travers le cuivre. Ses yeux tombèrent sur l'enchevêtrement de câbles audio sous son établi. Toslink. Câbles audio numériques. Une fibre optique plastique rougeoyante qui avait transporté de la musique entre lecteurs CD et amplificateurs pendant des décennies. Des longueurs d'onde de 650 nanomètres dansant à travers des cœurs en polymère, déjà optimisés pour les spécifications exactes qu'un fibé exigerait. L'infrastructure était déjà là, déguisée en équipement audio grand public. Du cuivre à la lumière, la solution élégante. La percée ne vint pas d'une ingénierie complexe, mais de l'observation de la solution la plus simple possible, cachée à la vue de tous. Parmi les câbles audio se trouvait un séparateur Toslink en Y, une entrée, deux sorties. Le genre de composant en plastique anodin qui coûtait quelques euros et était conçu pour diviser les signaux audio numériques vers plusieurs amplificateurs. Mais la lumière était la lumière, qu'elle transporte du Dolby Digital ou des protocoles en wire. Le génie était mécanique, pas électronique. Deux chemins optiques distincts convergeant en une seule fibre. Un chemin pour l'émetteur LED, un chemin pour le récepteur photodiode. Le séparateur gérait la commutation optique par la pure physique, pas de composants actifs, pas de consommation d'énergie, pas de complexité au-delà de la géométrie de la réfraction. LED sur une branche, photodiode sur l'autre, appareil connecté à la sortie unique. Les protocoles de synchronisation restaient identiques au un wire électrique. Phase de transmission du maître, phase de réponse de l'appareil, le tout préservé par un fonctionnement en half duplex. Le séparateur était transparent pour le protocole, invisible pour les appareils. Ces premières expériences utilisèrent des composants du tiroir de récupération. Une LED 650 nm extraite d'un panneau indicateur cassé. Une photodiode peint soigneusement dessoudée d'une souris optique. Des circuits de commande simples, un transistor pour la LED, un comparateur pour la photodiode. L'électronique était presque triviale comparée à l'élégance optique. Les tests de portée à travers un câble Toslink standard révélèrent des distances approchant les 50 mètres. Transmission propre, fiable et sans interférence. La fibre polymère pouvait être pliée comme un tuyau d'arrosage, tirée à travers les murs comme un câble de haut-parleur, raccordée avec de simples connecteurs mécaniques disponibles dans n'importe quel magasin d'électronique. L'aspect économique était plus nuancé que de simples calculs de coûts. Les composants individuels des magasins d'électronique gonflaient considérablement les prix. L'approvisionnement via AliExpress en quantité raisonnable ramenait les coûts de la LED et de la photodiode à moins de 2 euros au total. Pour les makers prêts à commander des composants par centaines auprès de fournisseurs taïwanais via Global Source, l'économie se rapprochait de la réalité de la fabrication et des coûts de composants essentiellement négligeables. Mais la révolution la plus profonde était philosophique, pas économique. L'ingénierie de la révolution démocratique. La beauté de l'approche du séparateur en Y résidait dans sa passivité totale. Pas de circuit de commutation, pas de dépendance temporelle, pas de composants actifs susceptibles de tomber en panne. Le domaine optique gérait la communication bidirectionnelle par la pure géométrie. Pendant la transmission, la LED illuminait à la fois le chemin du récepteur, sans danger, et le chemin de l'appareil, transportant les données. Pendant la réception, la lumière entrante illuminait à la fois le chemin de l'émetteur, sans danger, et la photodiode réceptrice, récupérant les données. La perte de puissance était le seul compromis. Chaque passage à travers le séparateur coûtait environ 3 dB, la moitié de la puissance optique perdue dans chaque direction. Pour les modestes exigences de synchronisation de un wire à 15 kHz, ce budget de perte restait entièrement gérable sur des distances pratiques. L'implémentation mécanique se cristallisa autour de connecteurs Toslink à montage sur panneau, orientés à 90 degrés par rapport à la surface du circuit imprimé. La LED et la photodiode étaient montées directement derrière les férules du connecteur, alignées avec le cœur de la POF d'un millimètre avec une précision mécanique. Le connecteur devenait à la fois l'interface optique et le mécanisme de montage. Pour les applications à plus longue portée, la signalisation différentielle à double fibre restait possible. Deux séparateurs en Y, quatre chemins optiques, des émetteurs-récepteurs RS-485 pilotant les LED de transmission de manière différentielle. Réjection du bruit en mode commun par des canaux optiques au lieu d'électriques. La portée pouvait s'étendre au-delà de 100 mètres tout en maintenant une isolation électrique complète. Le réseau s'éveille, cartographier le silicium dans le cyberespace. Tard cette nuit-là, alors que Barcelone s'installait dans son rythme numérique vespéral, Adria commença à mettre en œuvre la vision de Frédéric Lindbergh à travers des canaux optiques. Chaque appareil à un FIBE conserverait son identité de 64 bits gravée en usine, prête à être mappée à des adresses IPv6 par un hub réseau. Le hub découvrirait les appareils via l'interrogation à wire standard sur des liaisons optiques, puis attribuerait des adresses IPv6 basées sur leur code ROM éternel. 2001 DB8 1/64 01 A2 B3 C4 D5 SI F701. Aucune configuration d'appareil requise. Aucune autorité centrale au-delà de la passerelle locale. Juste l'élégante mathématique de l'adressage distribué fonctionnant exactement comme Frédéric l'avait imaginé, le hub gérant la traduction IPv6 tout en préservant l'identité de silicium unique de chaque appareil. Les séparateurs optiques permettaient des topologies en étoile impossibles avec les systèmes électriques. Un ohmmètre pouvait communiquer avec des dizaines de capteurs via une distribution passive par fibre, pas d'électronique active dans des environnements difficiles, pas de point de défaillance unique. Les fibres polymères pouvaient passer dans des chemins de câbles, des conduits, ou simplement être agrafées le long des murs comme du fil de haut-parleur basse tension. Pour les installations permanentes, les prises murales apparurent comme l'architecture logique. De petits boîtiers en plastique avec des prises Toslink en façade et des connecteurs de fibres mécaniques à l'arrière. Câbles POF en vrac entre les prises, court cordon de brassage Toslink vers les appareils. La philosophie d'installation reflétait celle des réseaux Ethernet, une infrastructure de base permanente avec des points d'accès flexibles. Son premier réseau à un FIBE complet s'étendait dans l'atelier comme une constellation de connexions rougeoyantes. 5 appareils à un wire de récupération connectés via des séparateurs optiques et des câbles Toslink, chaque appareil annonçant son identité par des impulsions lumineuses précisément synchronisées. La démonstration était simple mais profonde. Un capteur de température DS18B20, à 30 mètres de distance à travers 3 segments de fibre, rapportant ses mesures à une adresse IPv6 dérivée de son identité éternelle de 64 bits. Le même capteur qui aurait nécessité une conception électrique soignée et un blindage émis fonctionnait désormais parfaitement grâce à l'isolation optique. Aucune configuration. Aucun pilote. Aucun logiciel propriétaire. Juste des protocoles un wire standard circulant à travers la lumière au lieu des électrons, transportant la vision de Dallas Semiconductor d'un silicium à adressage unique dans l'ère photonique. L'architecture philosophique. À l'approche du matin, Adria se mit à contempler les implications plus profondes. La technologie comme archéologie du futur. Un wire avait attendu 30 ans le bon support physique. IPv6 avait attendu 20 ans des appareils dignes d'être adressés individuellement. Les câbles Toslink avaient attendu des applications nécessitant leurs propriétés uniques d'isolation électrique et d'immunité électromagnétique. La synthèse ressemblait moins à une invention qu'à une découverte. Trois générations d'ingénieurs, chacune résolvant une partie d'un puzzle plus vaste sans en voir l'image complète. OWFS rendant un wire accessible en réseau. IPv6 donnant à chaque appareil sa propre identité Internet. Toslink fournissant l'infrastructure optique démocratique. Les principes du logiciel libre exigeaient qu'un FIBE reste une technologie démocratique. Licence GPL version 3 pour toutes les implémentations logicielles. Licence Creative Commons pour les conceptions matérielles. Pas de schéma de modulation propriétaire, pas de verrouillage par le fournisseur, pas de rareté artificielle. Juste la patiente physique de la lumière cohérente transportant la vérité numérique à travers des cœurs de polymère plastique. La révolution serait photonique, et elle serait libre. La révélation d'Esperanza. Trois jours plus tard, la porte de garage d'Esperanza s'ouvrit en douceur grâce à son e-button réenregistré. Mais elle remarqua le fin câble rouge qui serpentait de la fenêtre de l'atelier d'Adria jusqu'au local technique de l'immeuble, un prototype de liaison infibé surveillant des capteurs de température dans toute la vieille structure. « Qu'est intéressante !» murmura-t-elle, en regardant la faible lueur rouge pulser à travers le câble translucide. La lumière qui transporte de l'information. Comme les anciens signaux des phares, mais à l'intérieur d'un fil. Elle comprit intuitivement ce que de nombreux ingénieurs manquaient, que la véritable percée n'était pas technique mais philosophique. La libération de l'information des contraintes du métal et de l'électricité. Des données s'écoulant comme la lumière, aussi libre et rapide que la pensée elle-même. « Quand j'étais jeune, continua-t-elle, nous envoyions des messages en les cachant dans des livres, dans des chansons, dans la façon dont nous étendions le linge. Maintenant, vous cachez des réseaux dans des câbles audio. Si on prend la même chose, l'intelligence trouve toujours son chemin, peu importe les murs qu'ils construisent. » Adria réalisa qu'elle avait raison. Un FIBE n'était pas seulement une amélioration d'ingénierie, c'était l'équivalent numérique de la communication de guérilla, des réseaux capables de contourner les dommages, la censure et le contrôle des entreprises en parlant le langage de la lumière à travers une infrastructure conçue pour le divertissement. La propagation commence. La nouvelle se répandit à travers les réseaux où circule la véritable innovation et des forums enfouis dans le trafic des backchannels d'Internet, des listes de diffusion maintenues par des bénévoles, des canaux IRC où le savoir se déplace à la vitesse de la lumière entre des esprits prêts à le recevoir. La documentation, publiée sous la licence de documentation libre GNU, déclencha une vague mondiale d'innovation populaire. Chaque nouveau déploiement renforçait l'idée centrale, la technologie devient vraiment puissante lorsque ses connaissances sont partagées ouvertement et adaptées localement. De Nairobi. Avons utilisé de la fibre recyclée de vieux systèmes audio de voitures et des séparateurs imprimés en 3D pour connecter des stations météo communautaires. Maintenant, les agriculteurs de la vallée du Rift reçoivent des alertes en temps réel par SMS, plus besoin de compter sur des émissions de radio peu fiables. De Lima. Avons réutilisé des câbles POF de salles d'arcade désaffectées pour créer un réseau maillé dans le quartier. Le réseau électrique de la ville est instable, mais la lumière se moque des coupures de courant. Nos capteurs continuent de fonctionner même pendant les pannes. De Jakarta. Des hackerspaces locaux ont transformé des câbles de karaoké mis au rebut en liaison infibé pour des systèmes d'alerte aux inondations. Des étudiants ont soudé des émetteurs récepteurs lors d'ateliers le week-end, maintenant tout le quartier reçoit des alertes avant que les rivières ne montent. D'Athènes. Dans des bâtiments abandonnés transformés en lab de makers, nous avons utilisé de la POF de vieux lecteurs DVD pour mettre en réseau des moniteurs de qualité de l'air fait maison. La ville ne financera pas nos projets, mais nous n'avons pas besoin de leur permission pour respirer un air plus pur. Demain B. Les chauffeurs de rickshaw transportent maintenant des kits d'outils POF pour raccorder des câbles à la volée. Nous les avons formés pour connecter les étals des vendeurs de rue à un système d'inventaire partagé et plus de ventes perdues à cause de rupture de stock. La technologie devrait travailler pour les gens, pas l'inverse. Chaque histoire prouvait la même vérité, la technologie démocratique n'a pas besoin de la bénédiction de la Silicon Valley. Elle prospère dans les garages, les ruelles et les salles de classe, construite à partir de rebuts et d'un optimisme tenace. Qu'il s'agisse de fibres plastiques pour les connexions locales ou de fibres de verre pour une plus grande portée, l'avenir se construit un photon et une communauté à la fois. Implémentation technique, l'ingénierie de la lumière pour la démocratie. Le système Infibé complet préserve chaque aspect du protocole InWire original tout en transcendant les limitations physiques du cuivre. Les spécifications de synchronisation standard restent inchangées, le taux de signalisation de 15 kHz, impulsion de réinitialisation de 480 microsecondes, créneau temporel de 60 microsecondes. Cette rétrocompatibilité garantit que les appareils InWire existants fonctionnent de manière transparente sur des liaisons optiques grâce à une simple traduction électrique optique. L'innovation principale réside dans l'architecture du séparateur TOS-LINK-ANI. Ce composant optique passif permet une communication bidirectionnelle sur une seule fibre sans aucune électronique de commutation active. La LED et la photodiode se connectent à des branches séparées du séparateur, tandis que l'appareil se connecte à la sortie commune. Une perte de puissance optique d'environ 3 dB par direction représente le seul compromis du système, facilement gérable dans le cadre des modestes exigences de synchronisation de InWire. L'approvisionnement en composants reflète le spectre de la réalité des makers. La récupération de déchets électroniques permet un coût quasi nul pour ceux qui ont des compétences en récupération. L'achat sur AliExpress en quantité raisonnable ramène les coûts des composants à moins de 5 € pour un émetteur-récepteur complet. Pour les makers orientés production s'approvisionnant par centaines auprès de fournisseurs taïwanais, l'économie se rapproche de la réalité industrielle avec des coûts matériels essentiellement négligeables. Les implémentations en fibre optique plastique, POF, utilisent précisément 650 nanomètres pour une transmission optimale à travers les cœurs en polymère PMMA. Les câbles TOS-LINK standard fournissent l'infrastructure démocratique, une POF d'un millimètre de diamètre qui peut être pliée, tordue et tirée à travers les murs comme un câble audio. L'installation ne requiert aucune compétence particulière au-delà de la manipulation de base des connecteurs, et le raccordement mécanique peut être réalisé avec des outils simples disponibles chez n'importe quel détaillant d'électronique. Les portées de transmission s'étendent jusqu'à 50 mètres par segment de fibre en utilisant des composants LED et photodiodes de récupération. Les implémentations à portée étendue utilisant une signalisation optique différentielle peuvent atteindre plus de 125 mètres grâce à des architectures à double séparateur en Y avec une compatibilité d'interface RS-485. L'immunité de la fibre plastique aux interférences électromagnétiques et l'isolation électrique éliminent des catégories entières de problèmes d'installation qui affectent les réseaux en cuivre. Les protocoles de découverte de réseau fonctionnent de manière identique au système InWire basé sur le cuivre. Les nœuds hub interrogent l'environnement optique à l'aide d'algorithmes de recherche ROM standard, construisant automatiquement des tables de routage IPv6 basées sur les identités des appareils découverts. L'adresse de 64 bits programmée en usine de chaque appareil devient son identifiant Internet unique au monde grâce au mappage géré par le hub vers les adresses d'autres IPv6, pas de configuration d'appareil, pas de complexité de traduction, pas d'autorité centrale au-delà de la passerelle locale. L'architecture d'installation s'étend des connexions point à point à une infrastructure à l'échelle d'un bâtiment. Les systèmes de prises murales utilisant des prises TOS-LINK et du câble POF en vrac permettent des installations permanentes avec une apparence professionnelle. L'implémentation mécanique utilise des connecteurs TOS-LINK à montage sur panneaux orientés à 90 degrés par rapport aux surfaces du circuit imprimé, avec la LED et la photodiode positionnées directement derrière les férules du connecteur pour un couplage optique optimal avec le cœur de la POF d'un millimètre. La spécification du matériel libre assure une maintenabilité perpétuelle. Toutes les conceptions mécaniques sont sous licence Creative Commons BY-SA, les schémas électroniques utilisent la CERN Open Hardware licence version 2, les implémentations logicielles suivent la GNU Générale Publique licence version 3. Pas de verrouillage par le fournisseur, pas d'obsolescence programmée, pas de rareté artificielle. Juste une ingénierie patiente documentée pour une reproduction démocratique à tous les niveaux économiques. Les scénarios de déploiement mondiaux vont des réseaux de capteurs industriels dans des environnements électromagnétiquement hostiles aux réseaux maillés communautaires qui contournent les infrastructures de télécommunications coûteuses. Les systèmes de communication d'urgence peuvent rester opérationnels malgré des perturbations électromagnétiques qui détruiraient les liaisons radio. Les installations urbaines connectent des bâtiments par des tracés de fibres optiques qui ne nécessitent ni permis électrique ni coordination avec les services publics. La technologie s'adapte, des démonstrations à un seul appareil au réseau à l'échelle d'une ville, limitées uniquement par les mathématiques de la propagation optique et la créativité des implémenteurs communautaires. Chaque déploiement réussi valide la thèse selon laquelle la sophistication technologique peut être démocratisée par un partage de connaissances fondé sur des principes et une documentation honnête des réalités de mise en œuvre à tous les niveaux économiques. PS, les personnages de cette histoire peuvent être inspirés de personnes réelles ou d'archétypes, mais sont le fruit de l'imagination de l'auteur de cet article de blog.